VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 11 décembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Alderson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, poursuite de la campagne pour les élections du 23 décembre, malgré les incidents de dimanche à Kindu.
Au Burkina Faso, Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch manqué de 2015, campe sur ses positions devant le tribunal militaire à Ouagadougou.
Au Mali, au moins 13 civils ont été tués dans le centre du pays depuis le 5 décembre.
Les États-Unis ont interdit hier l'entrée sur leur territoire à l'ancien président de Gambie, Yahya Jammeh.
En France, de nombreux gilets jaunes toujours mobilisés, malgré les mesures annoncées par le président Emmanuel Macron dans un discours hier.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, la campagne électorale a atteint sa vitesse de croisière. Emmanuel Ramazani Shadary de la coalition au pouvoir, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, les favoris de la présidentielle du 23 décembre, ont continué à battre campagne malgré les incidents intervenus dimanche à Kindu. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans un meeting populaire lundi à Panzi au sud Kivu, Martin Fayoulou a rendu hommage à toutes les femmes victimes des violences sexuelles en RDC et au travail du docteur Denis Mukwege. Le candidat de la coalition Lamuka, à genoux devant la foule, a pris le ferme engagement de ne jamais trahir la nation. Il était quelques heures plus tôt à Bukavu, toujours au sud Kivu, pour le même exercice. Le ticket Félix Tshisekedi Vital Kamerhe est lui à Bunia, en Ituri. Face à la foule venue l'écouter, Félix Tshisekedi, candidat unique de Cap pour le changement, a rappelé à ceux qui scandaient le nom de Fayoulou, je cite, « Nous ne sommes pas vos adversaires. Votre adversaire est le candidat numéro 13, entendait Ramazani Shadary, que nous et vous sommes en train de combattre. C'est le candidat du kabilisme. Mes chers frères, ne vous trompez pas d'adversaire. » Fin de citation. Kamerhe et Tshisekedi ont par la suite échangé avec quelques notabilités de la province avant de reprendre leur tournée. Le candidat Shadary, lui, était lundi à Bouta dans la province du Bazouélé, où il a promis dans un meeting en langue locale de faire de Bouta, une fois élu, une province modernisée, d'assurer la gratuité de l'enseignement primaire et d'améliorer les conditions pour les étudiants. Pendant ce temps, quelques outsiders comme Alain Daniel Chekomba ou Gabriel Mokia ont également lancé leur campagne électorale à la présidentielle à Matadi, puis dans la capitale. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'audition de Gilbert Diendéré, l'ancien patron de la garde présidentielle et ex-bras droit du président déchu Blaise Compaoré, se poursuit devant le tribunal militaire. Au 9e jour de sa comparution, il a campé sur ses positions et a continué de nier la paternité du putsch manqué de 2015. Raissa Gironde.
Lorsque quelqu'un est menacé par la peine de prison à perpétuité, la moindre des choses, c'est de lui permettre de se défendre de la manière la plus entière, a estimé son avocat Jean Yaouvi Degli. Il faisait allusion à des conversations téléphoniques prêtées au général Diendéré qui ne figurent pas dans le dossier. L'expertise de mes téléphones n'a pas été faite de façon convenable pour la manifestation de la vérité, a martelé le général Diendéré. Ancien chef du régiment de sécurité présidentielle, il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison et meurtre lors du putsch manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés en 2015. 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire à Ouagadougou depuis le début du procès en février. Un autre général, Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, est également présent au procès et passera bientôt sur le banc des accusés.
Toujours au Burkina Faso, le président Marc-Christian Kaboré a appelé hier ses concitoyens à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme auquel est confronté le pays depuis mars 2015. Face à cette guerre que nous imposent les forces rétrogrades et obscurantistes, il nous faut faire preuve de solidarité et plus que jamais nous rassembler autour de l'essentiel, a déclaré M. Kaboré dans un discours radio-télévisé à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. L'opposition politique et de nombreux acteurs de la société civile ont réclamé l'éviction des ministres en charge de la défense et de la sécurité, pointant leur incapacité à enrayer les attaques terroristes.
Au Mali, au moins 13 civils ont été tués dans le centre du pays depuis le 5 décembre, a appris l'AFP auprès d'un élu et d'un responsable administratif de cette région, particulièrement instable, où sévissent des islamistes et s'affrontent des groupes d'autodéfense de différentes communautés. Depuis l'apparition il y a 3 ans dans le centre du groupe djihadiste du prédicateur Paul Amadou Koufa lié à Al-Qaïda, les violences se sont multipliées entre les Peuls traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. La France et le Mali ont annoncé qu'Amadou Koufa avait été éliminé lors d'une opération conjointe le 23 décembre, mais les violences n'ont pas pour autant diminué.
Les États-Unis ont interdit hier l'entrée sur leur territoire à l'ancien président de Gambie, Yahya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 années de dictature. Les détails avec Nani Tanani.
Yahya Jammeh, son épouse Zineb Jammeh et leurs 2 enfants Mariam Jammeh et Muhammad Yahya Jammeh sont placés sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers impliqués dans des faits de corruption ou dans de graves violations des droits humains, selon un communiqué du département d'État. En conséquence, ils ne sont plus autorisés à entrer aux États-Unis. La diplomatie américaine soutient que les États-Unis sont aux côtés du gouvernement de Gambie, de son peuple et de sa société civile pour soutenir la transition vers davantage de transparence, de responsabilité et de gouvernance démocratique. Depuis sa chute fin 2016, Yahya Jammeh vit en exil en Guinée équatoriale chez Teodoro Obiang-Nguema, qui avait promis de protéger son ami déchu. Il se trouve que les deux amis possèdent des maisons somptueuses dans le quartier chic de Potomac, dans l'état du Maryland, tout près de Washington. Ces maisons valent chacune 3,5 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs CFA, ce qui représente le 1/10 du PIB de la Gambie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En France, l'exécutif va tenter ce mardi de convaincre que les annonces faites la veille par le président Emmanuel Macron répondent aux demandes des Gilets jaunes, nombreux à se déclarer déçus et à vouloir poursuivre leur mobilisation. Le Premier ministre Édouard Philippe est appelé à détailler devant les députés les mesures dévoilées hier par M. Macron dans son adresse télévisée à la Nation et dont voici un extrait.
Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 euro de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires.
Eh bien, c'était un extrait du discours télévisé prononcé hier par le président français Emmanuel Macron.
En Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May a annoncé aux députés le report du vote sur l'accord de sortie de l'Union européenne qui était prévu mardi. C'est en raison des profondes divisions des parlementaires britanniques qui menaçaient de le voir rejeté, Morgan Guiriec.
Nous allons reporter le vote, a dit hier Mme Theresa May devant la Chambre des communes sans annoncer de nouveau calendrier. Les députés britanniques sont vivement opposés à la solution trouvée pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a aussitôt convoqué jeudi à Bruxelles un autre sommet européen. Il précise qu'il n'y aura pas de renégociation de l'accord de divorce et que les conséquences sont difficiles à anticiper. D'abord, que faire avec les voyageurs pour l'utilisation du réseau de téléphonie mobile? Le service est actuellement gratuit au sein de l'Union européenne et devra engendrer des frais pour ceux qui franchissent la Manche ou la frontière irlandaise. Il en va de même pour l'usage de cartes de paiement bancaire. Les compagnies aériennes britanniques et européennes pourraient aussi perdre le droit d'opérer entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, paralysant ainsi le trafic. Et si aucun accord n'est trouvé avant le 21 janvier, les conséquences politiques sont tout aussi imprévisibles. Theresa May pourrait même être amenée à mettre en jeu son poste avec de nouvelles élections législatives, ce qui ne réglera pas pour autant ce divorce devenu très compliqué.
La directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, arrêtée au Canada à la demande des États-Unis, a plaidé lundi devant un tribunal de Vancouver pour sa remise en liberté. Meng Wanzhou, accusée de complicité de fraude visant à contourner les sanctions américaines contre l'Iran, a parlé de problèmes de santé et promis de se soumettre à une surveillance stricte. L'audience reprendra ce matin, a indiqué le juge. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talami.
Le Sénégal et les États-Unis viennent de signer un pacte énergétique de 550 millions de dollars destiné à moderniser et renforcer le secteur de l'électricité du Sénégal pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. Le gouvernement sénégalais contribuera à hauteur de 50 millions de dollars supplémentaires au pacte, ce qui portera le programme total à 600 millions de dollars. Cet accord viendra aussi compléter l'initiative américaine Power Africa, qui accélère les améliorations dans le secteur de l'énergie en Afrique subsaharienne. Le pétrole a chuté hier parallèlement aux nouvelles baisses des marchés boursiers mondiaux, effaçant ainsi les gains réalisés la semaine dernière lorsque les pays de l'OPEP et d'autres exportateurs ont convenu de réduire leur production de brut à partir de janvier 2019. Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 1,02$ pour s'établir à 60,65$ le baril, tandis que les contrats à terme américains ont perdu 98 cents pour se négocier à 51,63$ le baril. Terminons avec l'Égypte qui a vendu pour 1,1 milliard de dollars des bons du trésor d'un an libellés en dollars lors d'une vente aux enchères selon sa banque centrale. Le rendement moyen des billets était de 3,747%. Les effets arriveront à échéance le 10 décembre 2019.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF attend une réponse de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023.
En attendant, nous avons fait la même démarche qu'avec le Cameroun. Nous avons envoyé la lettre. Lundi ou mardi, il y aura une réunion entre le Premier ministre et les gens qui s'occupent de l'organisation de la CAN. Donc on va voir, a expliqué Ahmad Ahmad, président de la CAF. La Côte d'Ivoire n'est plus le pays hôte de la CAN 2021 après le retrait de la CAN 2019 au Cameroun et le décalage des éditions. En 2014, la CAF, alors présidée par Issa Hayatou, avait attribué les trois prochaines CAN d'un seul coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée.
On connaîtra le pays organisateur de l'édition 2019 le 9 janvier.
Après la clôture de l'appel à candidature programmé le 14 décembre, tout sera finalisé le 25 décembre pour faire sortir une shortlist de candidats avec leur évaluation et des notations claires. Le comité exécutif va se réunir le 9 janvier à Dakar, au Sénégal donc, où nous donnerons la décision, à expliquer Ahmad. Il a ajouté qu'il y a deux ou trois lettres d'intention qui ont été reçues, dont une de l'Afrique du Sud.
Trois Africains parmi les 50 nommés pour l'équipe type de l'UEFA.
Oui, finaliste de la dernière Ligue des Champions avec Liverpool respectivement 6e et 22e du dernier Ballon d'Or. L'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané ont évidemment été sélectionnés, tout comme le défenseur central de Naples, l'autre Sénégalais Kalidou Koulibaly, très performant en Serie A comme en Ligue des Champions. Les internautes sont désormais invités à voter parmi cette sélection de 50 joueurs pour choisir leur équipe type de l'année.
En Europe, dénouement attendu ce soir dans le groupe C en Ligue des Champions.
Trois clubs peuvent décrocher les deux tickets pour les huitièmes de finale dans ce groupe dit de la mort. Naples du Sénégalais Kalidou Koulibaly, le PSG du Camerounais Maxime Choupo-Moting et Liverpool de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Paris sera qualifié en cas de victoire en Serbie. Si le PSG fait un match nul et si Liverpool bat Naples, les Reds seraient alors en tête de ce mini-championnat à 3, où le résultat contre l'Étoile Rouge deviendrait anecdotique pour le PSG. Dans le groupe B, il ne reste qu'un billet à arracher entre Tottenham et l'Inter Milan, derrière l'intouchable FC Barcelone. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Indiana et Washington, 109 à 101. Philadelphie et Détroit, 116 à 102. Boston et la Nouvelle-Orléans, 113 à 100. Sacramento et Chicago, 108 à 89. Milwaukee et Cleveland, 108 à 92. Oklahoma City et Utah, 122 à 113. Dallas et Orlando, 101 à 76. Denver et Memphis, 105 à 99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En recevant leur Nobel de la paix lundi, le Congolais Denis Mukwege et la Zazidi Nadia Mourad ont appelé à renoncer à l'indifférence et à protéger les victimes de violences sexuelles, selon eux, souvent reléguées derrière des considérations mercantiles. L'envoyé spécial de VOA Afrique à Oslo, Roger Muntu, s'est entretenu de la signification de ce prix Nobel de la paix avec le docteur Mukwege lui-même.
Ce qui font la politique aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas un débat d'idées, c'est plutôt la distribution des biens. Je crois que pour moi, c'est pas la politique.
Votre pays, docteur, la RDC, pourra connaître dans quelques jours, pour la toute première fois, des élections crédibles et pacifiques. Y croyez-vous, docteur?
Je sais qu'il va se passer quelque chose le 23 décembre. Je ne sais pas si ça sera des élections. Je ne sais pas encore, c'est vous qui le dites, que ça va être libre et pacifique. Mais les signes que nous voyons, nous attendons que vraiment, je crois que le peuple congolais attend désespérément des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées.
On s'attend à ce que les docteurs puissent crier tout au chute. Très content, mais on ne voit pas ça. On ne voit pas que le docteur comprend l'ampleur de ce prix Nobel. Il y a tout un monde là-dehors, et je ne vous apprends rien, qui est venu de partout. Notre collègue d'ailleurs, Cathy, qui est avec moi nous aussi aujourd'hui ici, qui vient du Nigeria. Mais on ne sait pas vous lire ça. Est-ce que le docteur est très content? Est-ce que le docteur est très satisfait? Comment on ne peut pas lire ça? Le docteur peut dire, Roger, je suis très content aujourd'hui. Dites au monde entier que je suis quand même content.
Mais Roger, comment je peux être très content quand je viens d'un... des pays les plus riches de la planète, où la population vit dans la pauvreté abjecte, une violence qui n'a pas de fin. Il n'y a pas une semaine, 12 personnes encore ont été massacrées. Toute cette année, on a connu des viols massifs. Moi, je crois que ce prix Nobel aura son sens si vraiment ce prix nous permet à pouvoir changer la situation des femmes dans notre pays. Si ce prix peut nous permettre de changer la situation des survivantes de par le monde, si ce prix peut nous permettre de pacifier le Congo, là, si nous avons la paix au Congo, vous me verrez, Muntu, en train de crier très fort que nous avons gagné. Je vis avec la souffrance tous les jours. Les honneurs, ce n'est pas ça le plus important.
Le Congolais Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix. À Bukavu, dans l'est de la RDC, ce prix Nobel suscite un sentiment de fierté et d'encouragement et l'on salue le courage et l'engagement du gynécologue originaire de cette ville. Pour certains, c'est un prix qui honore le Congo tout entier et pour d'autres, le docteur Mukwege devrait continuer sa lutte car des zones comme Beni, le Kasai et l'Ituri nécessitent son implication pour soulager les souffrances des femmes. De Bukavu, Ernest Muhero.
Je suis fier de ça, ce n'est pas moi-même, mais nous tous ici au Sud Kivu, parce qu'il mérite ça. Il travaille bien, il est très courageux.
Moi, je me sens très fier de lui, qu'il continue tout le travail qu'il fait, parce qu'il aide beaucoup les gens, les femmes violées.
À travers ce prix Nobel de la paix que notre frère Mukwege vient de recevoir, que
la paix réelle se fasse sentir dans notre pays et que finalement tout ce qui crée des conflits, qui crée des problèmes chez nous finisse par disparaître et que la paix règne à jamais.
Il s'est donné corps et âme pour aider les gens. En tout cas, je peux seulement lui dire coup de chapeau et que Dieu lui bénisse. Nous voulons que nos femmes soient dans leurs droits et lui, comme docteur, il a déjà le renommé. Il peut plaider encore plus pour que la violence puisse cesser dans notre pays.
C'est pas donné à tout le monde. Le travail que Mukwege a fait sur les femmes violées, sa forte implication à aider les autres, à risquer même sa vie à plusieurs moments. Et je crois qu'il ne va pas se fatiguer à continuer à faire la même chose.
Le prix traduit pour moi une capacité de rechercher la paix, de construire cette paix. Je lui dirais de continuer la lutte. Parce que la lutte est gagnée et n'est pas encore gagnée. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
C'est une joie parce que je l'ai suivi. Il parlait de la souffrance de l'Est. Donc je pense que ce prix-là, c'est tout un espoir pour le pays. Et nous avons des femmes, des filles dans des zones meurtries, comme Beni, comme dans les Kassai, dans les Touri. Et toutes ces filles-là, ils veulent voir Mukwege pour soulager tant soit peu leur souffrance. Il peut penser à certains projets, comme il a fait ici à Bukavu, pour tant soit peu soulager les souffrances des femmes et des filles de ces coins de la République.
Des réactions recueillies par notre correspondant Ernest Mouero de Bukavu.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
En Guinée, la dépigmentation touche de nombreuses femmes de teint noir. Ces Guinéennes utilisent des crèmes et des médicaments pour se blanchir la peau, une pratique qui n'est pas sans risque pour ces dames. Devant le phénomène de plus en plus inquiétant, une jeune dame propose des produits cosmétiques naturels faits maison, comme nous le dit notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
À 29 ans, Fantasso, diplômée en audit et expertise, vit l'une de ses passions, le soin du corps. La démonstration à laquelle nous sommes invités est une occasion pour cette férue des cosmétiques de défendre ses savons.
Ça, on appelle ça la trace. Ça, c'est le début de la saponification. C'est à partir de là, de la trace, qu'on va ajouter notre ingrédient qui va créer la différence spécifiquement pour un soin qu'on a décidé de faire. Je sais qu'après, les gens vont se poser la question, on parle de naturel, mais on parle de soupe caustique en même temps. Alors, la soupe caustique naturelle ne veut pas dire bio.
La première étape de la saponification est terminée. Le mélange est recueilli dans un moule, mais il faudra attendre 2 semaines avant de retirer les savons qui seront ensuite exposés dans la boutique BHV Cosmétique. En 2 ans, la fabrication a doublé, passant de 50 à plus de 100 savons. Les clientes se disent satisfaites. Ange-Marie s'est débarrassée des boutons au visage après 6 mois d'utilisation des savons de Fanta.
Je lui ai montré ma peau. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'elle avait la solution. Les produits m'ont été livrés et depuis je suis le traitement et c'est vraiment bon. J'ai encore quelques taches, mais ça va. Les boutons, ça va, franchement.
Dans la capitale, les produits éclaircissants sont bon marché et un quart des femmes reçues au service de la dermatologie de l'hôpital Donka viennent à cause de ces produits. Mariam a vu sa peau s'éclaircir, mais pas comme elle l'aurait souhaité et depuis quelques mois, elle a arrêté d'utiliser les crèmes éclaircissantes.
Je me suis lancée dans la dépigmentation parce que j'avais des amis très près qui se dépigmentent et ils m'ont encouragée de me dépigmenter. Derrière chaque fois, ce qu'ils utilisent, ils m'amènent. J'ai ressenti ces douleurs-là sur mon corps, des boutons. C'est en ce moment-là que je me suis retirée.
La peau de Mariam est redevenue comme avant grâce au savon de Fanta. La jeune dame qui savoure un coup de maître après un coup d'essai n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
L'objectif pour moi, c'est qu'on dise aujourd'hui que tous les Guinéens n'utilisent que des produits cosmétiques naturels qui sont en pleine santé parce que l'idée derrière c'est ça. Et qu'aujourd'hui BHV soit vraiment le point focal de toute l'utilisation cosmétique en Guinée, un incontournable.
Dans sa boutique, Fanta propose toute une gamme de produits pour le soin des cheveux, des huiles et savons pour le corps. Si elle commence à se faire un nom dans la capitale, Fantasso est convaincu que le chemin pour la saponification naturelle est long, tant la majorité des Guinéens utilisent les produits cosmétiques industriels. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Nigeria, fin le week-end dernier à Abuja, du Festival international du film, connu sous le nom Zuma Film Festival. Plusieurs pays africains et du monde étaient représentés à ce festival qui a duré 7 jours et a été placé cette année sous le signe de l'archivage pour la créativité. Reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Des conférences, débats, des rencontres entre producteurs et artistes de l'industrie du cinéma, mais aussi et surtout des projections de films pour célébrer pendant 7 jours les productions cinématographiques du Nigeria et d'ailleurs. Plus de 75 films ont été projetés durant ce festival international de films. Chike Ngofwa est le directeur exécutif du Festival de films africains de la Silicon Valley en Californie aux États-Unis.
This festival itself is pretty much an international festival in scope.
Ce festival est vraiment un rendez-vous international en réalité. Plus de 70% des films présentés sont des produits nigériens, mais aussi avec un petit pourcentage modéré venu de l'extérieur du Nigeria, notamment des autres pays du continent africain et des autres continents du monde. Et le festival d'une semaine a été fantastique. Nous avions vu de très bons films, courts-métrages, des documentaires et autres.
L'édition 2018 avait pour objectif de susciter une prise de conscience chez les cinéastes sur le rôle important de l'archivage des œuvres audiovisuelles et de ses valeurs. Le débat a surtout tourné sur comment protéger et préserver plusieurs milliers de films produits au Nigeria au cours des dernières décennies. Kokabel Gemini est actrice camerounaise.
Vraiment, ça signifie beaucoup. Actuellement, j'étais un peu surprise quand ils m'ont invitée. Je me suis dit, oh mon Dieu, parce que je ne me considère pas avoir atteint ce niveau-là. Donc, être ici, vraiment, c'est une très grande opportunité. Je rencontre des gens magnifiques. Je rencontre des gens que normalement, je ne lis qu'à à propos d'eux ou alors regarder leurs films. Mais ici, je les rencontre. Et imagine quand tu rencontres quelqu'un que tu adores, que tu admire par leur travail.
La 9e édition du Zuma Film Festival est allée à la recherche des jeunes talents qui figurent déjà dans des productions cinématographiques du film nigérien. Senette Georges Eva est l'un de ces jeunes talents qui a remporté un des prix pour son court-métrage Talatu.
So having it this time is like finally I'm recognizing Zuma.
Recevoir ce prix en ce moment, ça veut dire que finalement je suis reconnu par Zuma. Et vous savez, Zuma est l'un des grands groupes dans l'industrie cinématographique du Nigeria. Et je connais ce que représente le groupe et sa capacité. C'est comme si vous gagnez un Oscar parce que si vous êtes reconnu, vous vous dites que j'ai raconté une histoire qui a eu un impact.
Osaretin Sonde est producteur de Nollywood. Il déplore l'absence des grandes vedettes du cinéma nigérian à ces festivals.
Moi, j'attendais de voir les anciens à cette rencontre, mais tout ce que j'ai vu autour de moi étaient seulement des nouveaux venus dans l'industrie du cinéma. Ceux qui vont encore à l'école et qui viennent pour apprendre du nouveau, mais on ne peut pas les séparer des anciens. Si vous voulez leur apprendre de nouvelles techniques, vous devez les mettre avec des anciens, comme ça ils vont apprendre auprès d'eux et assurer la relève de demain dans l'industrie du cinéma.
Plusieurs collections audiovisuelles et de films au Nigeria se perdent chaque année pour cause de non-conservation. L'industrie cinématographique nigériane est la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde en volume. Plus d'un million de personnes travaille dans ce secteur, la plus grande source d'emploi après l'agriculture dans le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05, temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host, je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait, Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends seront courtes le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.